Bienvenue à cette troisième partie du discours. C'est vraiment une troisième partie dans le sens où pour moi il y a vraiment une continuité dans l'exploration. Et donc il va y avoir des rebonds avec ce qui s'est dit précédemment. Et c'est passionnant en fait. Une bonne partie de une partie de mon temps que je passe ici. Je le passe dans mes réflexions pour explorer, de manière à pouvoir, à la fois ça me nourrit moi, peu à peu ça clarifie en fait ma compréhension dans le domaine assez spécifique pour le moment de l'alimentation et la relation entre l'alimentation et la méditation et la spiritualité et le désir, un peu tout ce monde-là. Et c'est passionnant en fait, c'est passionnant. Et j'espère que vous ressentez, vous vraiment vous captez que j'essaie de partager vraiment ce processus que je suis en train de vivre de manière. C'est le processus en fait qui est intéressant. Il y a aussi les peut-être certaines trouvailles ici et là qui peuvent venir enrichir votre processus. Mais c'est le processus, en fait, je pense, qui est important et que j'essaye aussi de rendre évident dans la manière dont je présente. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que dans ce processus, une bonne partie du temps, il y a de la pensée. La pensée est importante. La méditation seule, dans le sens où on entendrait méditation comme pleine conscience, quitter la pensée, revenir, ne suffirait pas à la compréhension profonde. La pensée fait partie des outils de recherche de notre spiritualité. Elle a un rôle un peu spécifique, en fait, la pensée. C'est difficile de savoir, parce que au début, on entend dire que bon, voilà, la pensée, c'est là le problème, et du coup, il faut quitter la pensée et revenir au moment présent. En gros, c'est la notion simpliste qu'on peut avoir de la méditation, mais très vite, on remarque que c'est plus du tout ça. On cultive les pensées, on cultive la pensée. Et c'est beaucoup ce que je fais là. Je cultive pas mal la pensée dans ces retraites, de manière à pouvoir après essayer de d'amener quelque chose de cohérent. Et pas juste la pensée, parce que sinon ça serait une construction mentale. Je dois vérifier dans mon expérience si ce que je dis correspond. Ou alors, je ressens mon expérience et de là vient une compréhension qui se formule qui prend la forme de pensée. Ça va dans les deux sens. Donc tout à l'heure, je cheminais avec cette pensée, je cheminais avec ce que j'ai dit hier. Déjà, dans ce que j'ai dit hier, il y avait des choses que je remettais en question, que j'avais envie d'approfondir, d'affiner dans cette compréhension. Et à un moment, je me suis rendu compte de quelque chose qui maintenant me paraît assez évident, mais qui ne m'apparaissait pas aussi clairement avant, et que du coup, je me prépare à partager avec vous. Et c'est la compréhension en fait que pendant un repas, eh ben l'esprit il mange. C'est pas que le corps qui mange, l'esprit aussi il mange. Et du coup, c'est ça la notion de pleine conscience, c'est que quand on est en train de manger, pour que ça se passe bien pour le corps, il faut qu'on mastique longuement. Mais pour que ça se passe bien pour l'esprit, il faut qu'il goûte. Parce que s'il ne goûte pas, eh ben du coup, il ne mange pas. Il n'est pas nourri. Il ne connaît pas la joie de manger. On a tous connu ça quand on est dans des grandes discussions, par exemple, à table. Eh ben, on peut siffler un verre de vin et puis on se demande qui l'a bu après. On n'a rien goûté. L'esprit n'a pas goûter le vin, il n'a pas eu la joie de ce bon verre de vin. La mousse au chocolat terminée. On l'a pas goûté, elle est vide, c'est fini. Frustré l'esprit. Ah, une deuxième. Eh oui, il n'a pas mangé. Ben, il veut plus. Il n'a pas encore mangé, lui, il n'était pas là. Le pauvre, il était parti bosser, hein, ou il était en train de régler un conflit. Enfin, il était ailleurs. Et du coup, lui, il n'était pas là à table. Il n'a pas mangé. Enfin, maintenant, ça me paraît mais tellement évident, en fait. Et évident, et il y a quelque chose d'un peu pathétique là-dedans aussi. Parce que, en fait, souvent, c'est lui qui se réjouit de manger. Parfois même, le corps, il n'a pas du tout envie, là. Il n'y a plus place, ou il n'y a pas faim, vraiment. Mais l'esprit, il est là, avec cette bonne paella, ou une bonne pizza, ou... et un truc. Et du coup, lui, il a envie de ça. Il a envie de ses goûts, il a envie de se nourrir de ce goût. C'est l'esprit qui goûte. Et du coup, on va chercher, on fait la paella ou on va chercher la pizza. Et pendant qu'on la mange, il n'est pas là, lui. Alors qu'il se réjouissait tellement. C'est pathétique un peu. Il y avait vraiment cet enthousiasme-là qui, même si on sait que c'est pas bon pour nous, même si on sait qu'on n'a pas faim, il y a le désir qui est là. Ça vient de l'esprit. Il veut ce goût. Il veut aller les chercher, ces goûts. Et au moment où on les mange, paf, il n'est pas là. Du coup, il en faut plus. Il n'arrive pas à satiété. 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 Il n'arrive pas à satiété, lui. Il n'a pas été nourri. Il n'a pas eu ce qu'il cherche. Il n'a pas eu ce qu'il demande. Et à ce moment-là, bah lui, il veut continuer. C'est normal. Il est frustré, il n'a pas eu, il veut continuer. C'est pour ça, je trouve que, et je le vois dans mon expérience, très souvent, je vais manger plus que ce dont le corps a besoin. Parce que l'esprit n'était pas là et n'a pas goûté. Je me demande combien est goûté vraiment sur un repas parfois. Alors, comme c'est un problème humain, nous autres êtres humains intelligents avons trouvé des stratégies. On a inventé des goûts plus forts. Avec des sauces, avec des... On a inventé... On a peu à peu fait des repas qui ont des goûts très forts. Parce que comme ça, on peut à la fois être perdu et que quand même, l'esprit soit rappelé au goût. Parce que le goût est fort. Ce qui est fort appelle. Hein? Tout ce qui est fort appelle l'attention. Écouter le bruit du vent, c'est très difficile. Mais dès qu'il y aura un klaxon, tac, c'est perçu. L'esprit y va. Pareil pour un goût qui est fort, avec beaucoup de sel, avec beaucoup de sucre, avec, hein, on arrive à avoir des goûts très très forts. Et du coup, l'esprit, perdu par exemple dans ses pensées, parce que je parlais d'une discussion, mais ça peut être une discussion tout seul, on peut être tout seul à table et ne rien goûter quand même, perdu dans nos pensées. L'esprit ne goûte toujours pas plus. Mais si on mange quelque chose qui a un goût fort, l'esprit va quand même en capter quelque chose. Il va faire des allers-retours en fait. Quand on va mettre une bouchée dans la bouche, si c'est un goût très fort, il va appeler ce goût, il va appeler l'attention. Tout ce qui est fort appelle l'attention. Une douleur dans le dos, tac, ça appelle l'attention. La finesse de la respiration n'appelle pas l'attention. Tout ce qui est fort appelle l'attention. Donc si on mange quelque chose qui a des goûts forts, l'esprit va goûter. En fait, il va faire des allers-retours. Regardez-le, il va faire des allers-retours. C'est-à-dire qu'on est dans les pensées et au moment où on met la cuillère en bouche, il va y avoir un moment où l'esprit goûte, où le goût est goûté. Parce qu'il est fort et il appelle l'attention. C'est une stratégie. En Inde, j'apprenais la musique classique indienne et il déplorait un phénomène un peu similaire. C'est que la musique classique indienne, c'est des instruments qui se jouent avec des instruments qui ne vont pas très fort. Parce que c'est des instruments fermés. En général, le son ne se propage pas. Un sitar fait beaucoup moins de son qu'une guitare. Des tablas font beaucoup moins de son que de bongo. C'est super difficile quand vous avez des tablas de jammer avec un bongo et une guitare. On ne nous entend plus. Donc dans les concerts, il y avait parfois des concerts à l'époque de 500 personnes et c'était pas amplifié. Alors tout le monde devait être hyper attentif. Et dans cette attention, il y avait une beauté. Et il y avait un soutien pour le musicien. L'inspiration venait de l'attention commune de tout le monde. C'était pas juste le musicien qui jouait, c'était une participation commune par l'attention portée à la musique qui se produit. Et le musicien pouvait jouer et ça venait d'au-delà de lui-même. Il ne jouait plus ce qu'il avait appris. Il était inspiré, inspiré par la densité de l'attention de l'écoute. Mais l'amplification est arrivée, le volume est monté, le besoin d'attention a diminué. Plus on met fort, moins on doit être attentif pour entendre. Et du coup, la qualité d'attention et l'audience, la qualité d'audience a diminué. Et toute cette époque très fructueuse au niveau de la musique classique indienne est en déclin parce que il n'y a plus un public apte à tendre l'oreille pendant autant de temps. Alors, raga, c'est parfois 3 heures, 4 heures. où les gens sont complètement absorbés, comme hypnotisés par la musique, et le musicien aussi. Mais avec l'amplification, ça ne se produit plus parce que les gens peuvent à la fois écouter et un peu penser à d'autres choses en même temps, et sans perdre le fil. On magnifie, on grossit l'expérience de manière à continuer à la percevoir pendant qu'on fait autre chose. Et au niveau des repas, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'un peu similaire. Moi, c'est la sauce soja. Je mets de la sauce soja et du coup, je goûte plus le repas. Je me rappelle. Les piments. Ouais. Donc je pense et j'ai vraiment l'envie d'inviter plus souvent mon esprit au repas pour qu'il goûte pleinement et qu'il goûte à la satisfaction et qu'il soit plus après. Je pense une fois qu'il y a cette satisfaction, il y a moins besoin de compenser ailleurs. Il y a aussi, à partir du moment où l'esprit est au repas, lui, il a une finesse de distinction. Il va nous informer, on va être informé donc de la qualité du goût de ce qu'on mange. Souvent, on mange. Il y a un drôle de processus où en fait on va manger quelque chose qu'on connaît déjà et en fait on ne le goûte plus vraiment parce qu'on sait déjà ce qu'on mange. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il y a une espèce d'habitude qui fait que quand on mange des carottes, on sait déjà à l'avance que c'est des carottes et du coup c'est un peu comme si on mangeait l'idée plutôt que l'actualité de la saveur du moment. Ça se produit dans tous les autres domaines, c'est pas que l'alimentation. On appelle ça des solidifications en fait. On solidifie et on transforme les choses en images et puis on relationne aux choses qui sont là à travers des images qu'on a solidifiées. Alors ça pose pas mal de problèmes évidemment. Un problème, un exemple qui a été révélateur pour moi, c'est que pendant très longtemps, j'ai fumé de l'herbe. Pendant très longtemps, ça a commencé, j'ai commencé à fumer quand j'avais 15-16 ans et c'était des très beaux moments. Et j'ai vécu de plein de belles choses en fait en fumant de l'herbe. Ça a été des moments importants dans ma vie. Et après, une dizaine d'années plus tard, je fumais toujours de l'herbe, mais là, il y avait toute une partie de moi qui n'aimait pas ça, quoi. Ah, je n'avais plus envie de cet état, mais par contre, je pouvais pas m'empêcher, c'était vraiment extrêmement contradictoire, c'était étonnant. J'avais pas du tout envie d'être dans cet état d'avoir fumé, l'état que ça produit, et pourtant ça tournait tout le temps dans ma tête et c'était là jusqu'à ce que finalement je m'assoie et je me roule mon joint. Et ça, je pense que ça vient du même processus de solidification, c'est-à-dire que si il y avait plus de pleine conscience dans le moment de fumer, l'expérience serait plus directe. Là, la satisfaction venait du fait de m'autoriser à faire quelque chose dans lequel j'avais trouvé du plaisir avant. C'est une espèce de tentative de reproduire quelque chose qui m'avait plu à l'époque. Il n'y avait pas l'actualisation. Pour que ça soit actualisé, il faut une conscience précise de tout ce qui se passe dans ce moment. Et on peut l'imaginer avec la nourriture. Il y a des nourritures qui nous font fantasmer, par exemple, et puis en fait, si on les goûtait avec pleine conscience, on remarquerait que au début c'est très goûtu et juste derrière il n'y a plus rien. En fait, si on mâche un peu et qu'on continue à mâcher certaines nourritures, il y a même des moments où vite qu'on avale et qu'on prenne la bouchée suivante parce que ça devient vite pas très bon en fait. Mais si on mange notre idée, on se réjouissait tellement de cette nourriture ben, que quand on la mange, on goûte pas vraiment. D'ailleurs, quand on la mange, souvent, on est déjà l'esprit est ailleurs. Du coup, il n'y a personne pour goûter là. Donc, il n'y a pas d'actualisation qui se fait de nos goûts, de ce qu'on aime et de ce qu'on n'aime pas. Et à l'inverse, quand on prête vraiment attention au goût, comme on l'a fait ici, on découvre que dans des choses qui normalement, ne nous satisferait pas au niveau du goût. On découvre une variété, une quantité, une subtilité de goût qui n'était pas perceptible au premier abord. Il faut vraiment une attention fine pour que le goût se dégage. Et là, du coup, il y a l'esprit est présent, l'esprit profite du repas, le corps profite du repas. Dans ce processus-là, je comprends comment, en mangeant avec plus de conscience, on peut manger moins, on peut manger plus sain. Moi, c'est un truc qui m'a toujours étonné, c'est que, en général, ce qui est sain n'est pas très attirant, et ce qui n'est pas très sain m'attire un peu plus souvent. Hein, c'est quand même souvent, c'est comme ça. Il y a plein de trucs qui ne sont pas très sains, et en fait, c'est ce que je préfère. Et là, c'est problématique, hein, faut le dire. Mais là, il y a moyen d'inverser la vapeur si je trouve l'énergie, la capacité de transformer l'attitude, qui est l'attitude qui est d'être tout le temps dans les pensées et dans la distraction pendant que je mange. Et plutôt ramener l'esprit au goût et aller goûter dans la profondeur, goûter dans la profondeur. À ce moment-là, ce qui va être vraiment goûtu sera ce qui est sain aussi, il me semble, encore à explorer. Il y aura en tout cas un accès à des goûts moins travaillés, moins transformés. Et il y aura la possibilité de se sentir pleinement satisfait avec peu. Donc quand on est à table, notre esprit, il faut qu'il mange aussi. C'est ça que je vais essayer de retenir en fait de cette compréhension. Quand on est à table, il faut que notre esprit se nourrisse aussi. Sinon, il ne va pas être satisfait, il va en demander plus. Et s'il n'arrive pas à satiéter, à ce moment-là, il va aller compenser ailleurs, chercher du plaisir dans d'autres choses. Une autre chose qui m'apparaît clairement en lien, c'est que quand on mange en conscience, il y a des moments où on éprouve de la gratitude. Il y a des moments où on éprouve de la gratitude pour ce qu'on est en train de manger, de la gratitude pour être là, dans ce moment, en train de manger ça. Quand on est conscient, quand on n'est pas éparpillé, dispersé sur d'autres histoires pendant qu'on mange, j'ai même du mal à appeler ça manger maintenant. J'allais dire ingurgiter, mais bon. Et qu'on est complètement dispersé, il n'y a pas ce phénomène de cette joie et de cette gratitude de ce moment. C'est encore autre chose que la satisfaction du goût, je trouve. C'est vraiment une gratitude d'avoir ça. Une gratitude d'être là dans ce moment. C'est à la fois d'avoir ça et d'être là. C'est les deux que je ressens. Et là, je trouve qu'il y a quelque chose de très intéressant à observer, à ausculter, c'est que la gratitude, elle, est plus un mouvement du cœur. Jusqu'à présent, la pleine conscience, ça semblait un peu un mouvement de, on dit l'esprit, l'attention, hein, ramener l'esprit. Là, la gratitude, si on sépare l'esprit et le cœur, pour mieux comprendre, ce n'est pas juste à tous les niveaux de notre expérience, mais si on sépare, alors on dirait que la gratitude est plus un mouvement du cœur qu'un mouvement de l'esprit. Il y a une espèce de gratitude, de joie. Donc il y a, dans ce moment-là, pleine conscience et gratitude en même temps, concomitant, qui existent en même temps. Pleine conscience et gratitude. Il peut y avoir pleine conscience et pas de gratitude. La gratitude vient Au moment où il y a pleine conscience que les goûts sont pleinement goûtés, elle peut à ce moment-là venir. Ou non, ça dépend aussi beaucoup de notre tournure d'esprit. Une tournure d'esprit qui est très... comment dire? L'expression qui vient, c'est après moi les mouches, où il y a moi et puis il y a le reste du monde, et puis le super moi. L'image qui me vient, c'est j'ai entendu, alors je connais plus du tout les détails, donc ne vous fiez absolument pas aux détails, mais j'ai entendu cette. J'ai lu en fait dans un article un jour qu'un membre du gouvernement aux États-Unis, il y a longtemps déjà, hein, disait que. Garantissait au peuple américain de pouvoir continuer à consommer autant, indépendamment de toutes les pressions écologiques, lui garantissait que c'était un droit au peuple américain de continuer à le style de vie. Et c'était une garantie du gouvernement. Il garantissait ça. C'était dans sa fonction, en fait. Et ben, avec un état d'esprit comme ça, je ne pense pas que la gratitude viendrait, même s'il apprenait la pleine conscience. Il pourra aller à des cours de pleine conscience, commencer à mâcher et tout. Je ne pense pas qu'il y aura la sensation de gratitude. Donc ça veut dire que la gratitude, elle vient aussi elle vient se mélanger à la pleine conscience, mais elle parle aussi de la manière dont nous concevons la vie. La conception de la vie de ce monsieur, c'est que la vie est là pour être utilisée, la planète est là pour être utilisée, peut-être même les autres peuples sont là pour travailler pour nous, pour qu'on ait plus de matérialité, plus de confort. C'est sa vision de la vie. Voilà. Dans cette vision de la vie, je ne pense pas que la gratitude fasse beaucoup partie du tableau. Et du coup, dans les moments de pleine conscience, si, ce qui est assez peu probable, mais si pour des raisons, maintenant que la pleine conscience est devenue aussi très technique, médicalisée et tout ça, peut-être bien qu'il se ferait prescrire de manger en pleine conscience, ce monsieur. Mais je ne pense pas qu'il ressentirait de la gratitude. Ça dépend de la tournure d'esprit. Et donc c'est pour ça. Ça rejoint ce qui se disait. Comment nourrissons-nous notre esprit? Quelles informations, quelles sont les visions de la vie qu'on a? Et est-ce qu'elles nous amènent à éprouver de la gratitude? Est-ce qu'elles nous amènent à aimer? La pleine conscience seule ne va pas suffire. Et c'est là que la pensée doit se mettre au service du cœur. C'est là que la pensée, elle doit... que nous devons cultiver des pensées d'amour. Nous devons cultiver des pensées qui ouvrent, des pensées qui rassemblent, des pensées qui nous permettent d'être en contact, d'être des pensées de tolérance. Ça se cultive. C'est étonnant, hein? Parce que ça veut dire qu'en fait, on pense que l'amour est inné, mais il ne s'exprime pas en toute personne de façon innée. Et pour qui les cultive les qualités du cœur, eh bien, ça va transformer. Donc, cultiver les qualités du cœur, ça se fait avec l'esprit. Parce que c'est l'esprit qui ouvre ou ferme la porte. Il me semble. Ça me rappelle toujours cette histoire terrible d'un. J'étais en Inde et un homme qui était brahmane, son fils est parti, a voulu épouser une fille d'une caste qui était plus basse. Brahmane, c'est. La caste qui se dit être la plus haute. Et du coup, c'est vraiment en Inde, c'est une catastrophe quand quelqu'un d'une caste haute épouse quelqu'un d'une caste plus basse. Et son fils allait l'épouser, allait partir, il a tué son fils. Et comment c'est l'esprit qui décide, en fonction des informations qu'il a et des croyances qu'il a, où l'amour va et où l'amour ne va pas. Lui, il croyait qu'il était brahmane, c'est ce qu'on lui avait toujours dit. En fait, c'était un gamin né sur la planète. Mais il était né dans un endroit où on lui a dit qu'il était brahmane. On lui a dit qu'il était hindou et on lui a dit ceci. Et peu à peu, il a cru qu'il était ça. Et ça a amené tout un tas de conditions à l'amour. Il ne pouvait pas, dans sa condition telle qu'on lui avait apprise, aimer certaines autres castes ou certaines autres religions ou certaines autres personnes. C'est l'esprit, avec sa forme, qui va dire oui ou non. Donc l'esprit ici, on doit le mettre au service du cœur. On doit, dans la pratique, dans notre recherche de que ce soit une recherche de santé, que ce soit une recherche de bien-être ou que ce soit la plus profonde des recherches spirituelles, on doit mettre l'esprit au service du cœur. C'est-à-dire nourrir les pensées qui sont au service de la vie et cesser de nourrir les pensées qui nous font sentir de plus en plus séparés, de plus en plus autres, différents, de plus en plus qui sont extrêmement critiques, extrêmement jugeantes vis-à-vis de nous-mêmes ou vis-à-vis des autres, qui en fait ne propagent pas de la tolérance et de l'amour. Ces pensées, quand on les voit, et c'est souvent des pensées qui sont en lien avec notre ego, cette image de nous-mêmes. Comme ce brahman, on pourrait dire, cette construction était une construction. Ce n'est qu'une construction mentale. Ça n'a aucune racine dans la réalité humaine d'être brahman. Aucune. C'est une construction mentale. Et on en est tous truffés. Et on relationne à la vie à travers ces constructions mentales. Alors, si elles sont bien faites, il y a plein d'amour qui passe. Mais si on est là, c'est qu'on sent quand même qu'il y a encore des fermetures. Et si elles ne sont pas bien faites, ces constructions mentales, ça laisse passer très peu d'amour. Très peu vers nous à nous, ou de nous aux autres. Par exemple, un exemple de comment on peut cultiver la gratitude, si on reprend l'exemple du repas, eh bien, dans des pratiques aussi bien du bouddhisme que de l'hindouisme et probablement d'autres traditions mais que je ne connais pas, il y a des réflexions, c'est bien l'esprit pensant, des réflexions à propos de l'interconnexion ou l'inter-être, comme l'appellerait Thich Nhat Hanh. Hein? Et quand on est devant notre assiette, on peut se rendre compte qu'en fait, cette compote de pommes, elle est là grâce à Lydia. Cette compote de pommes, elle est là grâce à quelqu'un qui a cultivé les pommes. Cette compote de pommes, elle est là grâce au soleil. Sans le soleil, pas de pommes. Grâce à la pluie. Grâce à tous les éléments. Grâce à la planète. À ce moment-là, on commence à sentir, oh, j'ai de la chance que ce soit là. Il semblerait que tout l'univers ait travaillé à ce que cette pomme soit là. On peut pousser par la pensée, reconnaître, c'est de donner de la reconnaissance, reconnaître la nature de cette pomme et que cette pomme est le fruit de tout ce mouvement de la vie. Et on peut le faire de façon aussi spécifique que celle que je viens de le faire, en pensant à la personne qui l'a cultivée. Pensant. Tout ce qui est en lien avec le fait que cette pomme arrive là, à ce moment. Alors, quand on développe cette tournure d'esprit, quand on commence à voir que les choses sont là parce que d'autres choses se sont produites et que tout est en lien, alors quand quelque chose arrive là, eh ben on va se sentir privilégié, on va sentir cette générosité de la nature, cette chance qu'on a, on va se sentir chanceux. C'est développé par l'esprit. Cette gratitude est développée par une compréhension. Et du coup, on mangera en pleine conscience, mais notre pleine conscience a une teinte de gratitude. Il y a plein de teintes dans la pleine conscience. La pleine conscience, parfois, dans certains enseignements, on a l'impression que c'était comme si c'était un regard absolument neutre et totalement neutre sur les choses. Je ne pense pas que ça existe. Il y a toujours une teinte qui est donnée par le filtre de notre conception. C'est encore à explorer pour moi, mais c'est des compréhensions, c'est extrêmement profond et je ne vais certainement pas aller dans ces directions-là maintenant, mais de comment la perception dépend des concepts. Et les concepts, ce n'est pas des pensées, c'est bien au-delà des pensées. Les concepts, la manière dont nous concevons la vie est un héritage de milliers d'années d'évolution. Et notre architecture cérébrale est une transmission de génération en génération. C'est-à-dire que ceux qui perçoivent la vie est l'héritage des générations précédentes. Donc nous percevons d'une certaine manière. Et là, eh ben on perçoit d'une manière pleine de gratitude. On pourrait percevoir d'une manière pleine de répulsion aussi cette pomme. Ben, une pomme. Quelqu'un qui, de nouveau, quelqu'un qui n'est pas, qui n'a pas cette propension à la gratitude, qui n'a pas cette tournure d'esprit et qui estime que, qui vit toujours dans les grands fastes et tout ça et qui se retrouve à devoir manger en pleine conscience une pomme parce que c'est un exercice que son médecin lui a donné, eh ben, il va la manger, mais ça va pas être du tout la même expérience. Et les deux sont de la pleine conscience. Donc ce qu'on veut, c'est manger en pleine conscience, mais pas juste en pleine conscience. En pleine conscience, mais aussi en pleine gratitude, en pleine reconnaissance. Pas juste comme un exercice parce que c'est bon pour la santé. Alors là, on commence à être bien nourri là. Parce que non seulement il y a le goût, mais il y a la présence de l'amour. Et ça, qu'est-ce qu'on en veut de ça? Qu'est-ce qu'on en veut de l'amour? Ah, pratiquement tout ce qu'on fait, c'est pour avoir de l'amour. Si pas tout. Au final, quand on y regarde bien, prenez cette construction mentale, l'ego dont on parle. Toutes ces pensées, toutes ces manières d'essayer de construire une image qui va plaire d'une manière ou d'une autre. Qu'on pense qu'il va plaire. Toute cette image avec laquelle, à travers laquelle on se juge, qu'on n'est pas assez comme ceci, qu'on est trop comme cela. Toutes les manières dont on se martyrise parfois pour essayer d'être plus comme ceci, plus comme cela, de se juger durement, d'avoir peur de l'autre, et s'il voit ceci, et s'il voit cela. Tout ce jeu, l'espace que ça prend, parce qu'on a envie d'être aimé, parce qu'on a envie de vivre de l'amour. Mais là, cette stratégie pour vivre de l'amour, je la trouve pas terrible. Cette construction permanente de l'image et de s'enorgueillir de soi-même ou d'essayer d'être spécial d'une manière négative, positive, mais je suis tellement différent. Regardez-moi, voyez-moi, je suis tellement différent. Cette envie d'être différent, cette envie d'être reconnu, elle est tout à fait naturelle. Mais ça marche pas très bien, je trouve. Je trouve qu'on vit beaucoup plus de l'amour quand on aime. Et je pense que même si tout le monde aimait bien l'image qu'on a faite, je serais pas très heureux. On continuera à avoir plein, plein, plein de pensées et du coup à pas goûter la vie parce que quand on est plein de soi-même comme ça, avec cette image, on ne goûte plus rien. C'est comme s'enfermer à l'intérieur et regarder la télé et jamais sortir dehors, écouter les oiseaux et voir la nature, c'est pareil. On est tout le temps dans notre histoire de cette image qui se construit, qui se développe, qui pense que, qui a été blessée là, qui voudrait apprendre ça pour être plus comme ça. On est tout le temps là-dedans, tout le temps là-dedans. La tension est dans la pensée. On mange, on ne goûte pas, on marche dans les bois, on ne voit rien. Il n'y a plus personne. C'est comme si on était dans une pièce absorbé par la télévision. Là, ça perd son sens. Et même si tout le monde adore cette image, mettons qu'on devienne rockstar ou un truc comme ça, tout le monde l'adore, qu'est-ce qu'on va sentir? Qu'est-ce qu'on va vraiment vivre? Est-ce qu'on va vraiment vivre de l'amour? Vivre de l'amour, c'est aimer. Et ce qu'on a vraiment besoin d'apprendre, je pense, c'est à sortir de notre petite bulle qu'on se construit pour plus aimer. Aimer notre alimentation, aimer les autres, aimer la nature, aimer notre recherche spirituelle, développer toutes les qualités qui permettent d'être plus aimant, comme la tolérance par exemple. La tolérance fait que l'amour ne peut plus passer. Il y a des gens qui arrivent à un enfermement tel que c'est plus vraiment possible d'aimer quelqu'un en fait. Il y a tellement de conditions à l'amour. C'est l'esprit qui met les conditions à l'amour. Il y a tellement de conditions à l'amour que ça passe plus nulle part. Il y a toujours une résistance. Il y a toujours quelque chose qui est heurté. Enfin, non, mais ça, c'est pas correct. Ah, mais ça, il aurait pas dû faire comme ça. Ou je croyais que lui, mais finalement, non. Et puis, finalement, ça se complique de plus en plus. Et sortir de là, on ne sortira pas de là si tout le monde nous aime. On sortira de là si nous, on réapprend à aimer un petit peu et à accepter aussi un petit peu plus les choses comme elles sont. Donc cultiver ces qualités qui permettent à l'amour de passer, à l'amour de s'exprimer de manière à ce qu'on soit plus aimant. Je pense que plus on aime, plus on aime, moins on a de pensées. Regardez quand vous tombez amoureux. Et rappelez-vous, n'y a plus personne. Tous nos soucis, tous nos petits pets au casque qu'on essayait de fixer avant, les petits trucs, les machins qu'on était en train de réfléchir, à essayer de. Parce qu'il y a ça aussi, ça chez moi qui va pas, et du coup il faudrait que je fasse comme ça, que je prenne des cours. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il y a cette sensation qui nous emporte. Et voilà, et du coup l'esprit revient à ça, le cœur est là, et le reste, tout est balayé, tout est mis sur le côté. C'est pas vie. En fait, on ne pourrait pas vivre comme ça. Là, c'est l'autre extrême. Mais je pense que si dans notre quotidien, on trouve des chemins pour aimer quelque chose dans nos journées, aimer un moment, aimer quelque chose qu'on croise, ressentir une sensation d'être humain à être humain avec un commerçant, juste avoir des sensations humaines, d'amour humain, dans ces moments-là, eh ben, c'est aussi des moments de pleine conscience, mais c'est aussi des moments dans lesquels il va y avoir réel contact, un contact beaucoup plus réel que ce qu'il y a d'habitude quand il y a toujours cette pensée qui rumine. Et plus on va avoir des moments où on aime, aimer, c'est porter attention. On porte attention à ce qu'on aime. Quand on aime quelqu'un, on prend soin. Prendre soin, c'est être attentif. Donc plus on va aimer, plus on va être attentif à ce qu'on croise, à ce qu'on mange, à ce qu'on voit, à ce qu'on ressent. Et quand on est attentif à tout ça, ce n'est pas des pensées. Ce n'est pas de la construction. On n'est plus dans le business de la multi-entreprise, la multinationale de construction d'un super-ego. Du coup, ça, cette construction, dans ce moment-là, n'est pas nourrie. Et donc, elle est moins grosse. Si on passe énormément de temps à construire notre image de nous-mêmes, on va avoir une image super construite. Plus on y passe du temps, plus elle est construite. Et plus on s'enferme dedans. Mais quand on aime, alors à ce moment-là, on est attentif. On ne peut pas aimer quelque chose et ne pas être attentif. On ne peut pas marcher dans la forêt et ressentir vraiment de l'amour et la beauté. Alors qu'on est complètement dans nos pensées et qu'on voit rien du tout, c'est juste pas possible. Pour ressentir de l'amour pour cette belle forêt, il faut la regarder. Et on ne peut pas regarder la beauté de la forêt si on est pris dans nos pensées. C'est antinomique. C'est un ou l'autre. Donc si on passe du temps à ressentir, à observer, à s'émerveiller, c'est du temps qu'on ne passe pas à construire cette super identité. Donc c'est une pleine conscience aimante qu'on doit cultiver, que ce soit pour manger ou pour toute autre chose. Une pleine conscience teintée de cœur, pas juste une pleine conscience. La pleine conscience est enseignée dans l'armée américaine aussi. La pleine conscience peut prendre toutes les couleurs. J'ai repensé en ayant ces réflexions, j'ai repensé à... Il m'est venu une image en fait. Il y a eu une époque où je marchais beaucoup dans l'Himalaya. J'avais mon sac à dos, j'étais assez en autonomie. Et j'ai fait ça plusieurs années de suite. Et très souvent, en fait, il y avait ces moments de gratitude qui me submergeaient parfois. Parfois, j'étais submergé de gratitude, d'une sensation d'amour. Parfois, j'étais complètement perdu dans ma tête. Enfin, il y avait beaucoup de mouvements. Mais je me rappelle que assez souvent, le soir, quand je me posais, j'avais de la gratitude pour mon corps. Parce que quand même, c'était intense. J'avais tout ce qu'il fallait pour cuisiner. J'avais à manger tout dans le sac. Je ne pourrais plus faire ça maintenant. Et parfois, j'avais des douleurs et tout ça. Et du coup, je me rappelle, il y avait des moments, je massais chaque endroit en disant merci. Merci. Bien travaillé. Ah, super. Je t'aime. Je sentais. Je disais pas comme ça, je t'aime, mais c'est ça que je sentais. Wow. La reconnaissance. Et je me disais, tu me demandes pourquoi je le fais plus. Et puis je me disais, c'est une belle méditation aussi. C'est quelque chose qu'on pourrait faire. Ce corps-là qui est là, qui nous sert constamment. Et que dont on essaie de prendre soin, mais que souvent aussi on néglige. Il y a les deux qu'on aime, mais avec lesquels on a aussi des difficultés, comme avec les autres et avec nous-mêmes. Hein. Et du coup, de lui dire un petit peu, de lui dire un petit peu à notre pied, ouais, merci. Ça fait longtemps que tu me portes, hein. Plus les pieds, je me dis toujours, on leur marche dessus, vous imaginez? Et je me demande, c'est pas quelque chose que j'ai pratiqué en méditation, c'est quelque chose qui s'est fait naturellement à d'autres moments. En fait, je pensais faire une méditation guidée en faisant ça. Mais comme je ne l'ai jamais fait moi-même en méditation, je ne me sentais pas super à l'aise de le faire. Mais maintenant, en fait, en y réfléchissant, je me dis, mais c'est une très belle manière de méditer, ça aussi. Une fois de temps en temps, on devrait visiter son corps. Parfois, je le fais pour détendre le corps. Il y a le body scan, là, vous voyez. Mais d'y ajouter cette dimension de merci. Cette dimension éventuellement de pardon. Parce que je sais que je t'en ai envoyé pas mal. Moi, je ferais ça avec mes poumons, par exemple. Chaque fois quand je le fais, en fait, je le fais à certains moments dans mon quotidien, pas dans mes méditations, mais dans mon quotidien. Oh, ça m'est venu un peu dans les méditations aussi, je me rappelle maintenant. Mais dans mon quotidien, parfois, je sens mes poumons et je leur fais bah, désolé, parce que j'ai quand même pas mal balancé de fumée. Et donc, voilà, il y a un merci. Il y a un merci, il y a un merci. C'est un peu sensible pour moi, c'est parce que c'est assez différent de ce que j'aurais dit même il y a quelques années. Mais en fait, il y a un merci pour votre courage que je dis à mes poumons. Merci d'être là, merci de prendre soin, merci pour votre courage. Désolé, désolé que mes tournures d'esprit ne m'aient pas permis de prendre soin de vous comme vous le méritez. Et voilà, donc si ça vous parle, ben je pense que c'est quelque chose qu'on peut faire, ça, en méditation. Passer son corps, on peut même le toucher avec les mains, on n'est pas obligé d'être comme ça, hein. On peut toucher les pieds, hop, ouais, merci, tiens, petit massage. Hein? Et puis remonter tout le corps. Et puis au niveau de tout le système digestif aussi. Moi, j'ai du mal à le sentir. J'arrive pas à. Il y a des maîtres à dia qui arrivent à distinguer et même à moduler les températures de différentes fonctions de leur système digestif. Alors moi, c'est tout un bloc là. Je sais pas qui est où. Et sur une carte, je m'en sors un petit peu, mais à l'intérieur, dans le ressenti, c'est très moyen. Mais donc, même si c'est, bon, ce sera pas très spécifique, mais quand même de remercier tout le système digestif qui boulotte, et puis lui aussi, je lui en envoie pas mal, il faut qu'il assure derrière, quoi. Et donc, ben voilà, une notion aussi de ben, désolé, pardon, merci. C'est beau, je crois que je vais le faire. Et si ça vous inspire, ben, je pense, faites-le, parce que je pense que quand on amène notre attention dans notre corps, l'attention, j'ai dit souvent, l'attention, elle nourrit. Là où on met notre attention, cette chose-là peut vivre. Quelque chose qui n'a aucune attention ne peut pas vivre. L'attention, elle nourrit, mais l'attention aussi, elle guérit. C'est pour ça que la méditation est rentrée par le biais de la santé en Occident. C'est parce que le fait de porter attention à quelque chose a un effet guérissant. C'est incompréhensible, mais à plein, plein, plein de choses, le fait d'être attentif et guérissant. Donc imaginez là, on va porter attention à notre corps et aux endroits où notre corps est blessé, abîmé. En plus, on va porter une attention qui n'est pas neutre, mais une attention qui est pleine de reconnaissance, qui est aimante. Eh bien ça, à mon avis, ça doit soigner. Je serais, si certains d'entre vous le font et le développent, je serais curieux d'avoir des retours. Qu'est-ce qui se passe dans votre expérience? Alors dans la tradition bouddhiste, il y a aussi une méditation de bienveillance que certains d'entre vous connaissent, que certains d'entre vous pratiquent peut-être même, et qui est une manière en fait d'apprendre à l'esprit à être bienveillant, d'apprendre à l'esprit à aimer. Comme je le disais, c'est l'esprit qui va dire oui ou non à l'amour. Aussi bizarre que ça soit, c'est ce qui me semble vraiment comprendre. C'est l'esprit qui va mettre des barrières et qui va dire oui, je peux aimer, non, je ne peux pas aimer, en fonction. Donc c'est ce qu'on appelle un amour conditionnel. Il y a des conditions à l'amour. Et ben, pour dénouer un petit peu cet esprit qui parfois est extrêmement rigide sur ses règles, on peut apprendre à travers en méditation, on peut apprendre à l'esprit à aimer en utilisant les visualisations. C'est-à-dire qu'on imagine des personnes, des scènes, et on leur souhaite de belles choses. Et comme je le disais dans un discours précédent, à partir du moment où on arrive à ressentir quelque chose, pendant qu'on imagine ça, l'esprit ne fera pas la différence entre ça et si la personne était vraiment là et qu'on lui souhaitait vraiment à elle, dans ce qu'on appelle la réalité. Pour l'esprit, c'est réel. Et chaque expérience réelle transforme. Donc l'esprit se transforme à force de répéter des paroles bienveillantes et des souhaits bienveillants à des gens qu'on aime, à des gens qu'on connaît peu finalement. On la fera demain, cette méditation. Je la guiderai demain. Elle fera partie de la méditation guidée de demain. À nous-mêmes. Là, ça c'est parfois c'est truqué. Parfois, quand on essaye de se souhaiter de belles choses à nous-mêmes, il y a des résistances. Il y en a pour qui ça vient même pas du tout en fait. Et si demain c'est votre cas, ce qu'il faut vraiment savoir, c'est que c'est une pratique qui peut détendre ça pour que de plus en plus ça devienne vrai et authentique. Au début, les souhaits, on peut se les dire, mais ça ne sonne pas du tout authentique, c'est juste une répétition mentale. Mais déjà, de le pratiquer va permettre de détendre et que ça devienne plus concret. Et aussi, c'est dur, mais quand on essaye de se souhaiter des belles choses et qu'on voit qu'en fait, il y a plein de conditions qui viennent et qui font que non, non, tu ne le mérites pas, ou t'es pas capable de ça, ou de toute façon tu n'y arriveras jamais, tu ne le vaux pas, et tout ça, cette critique intérieure qui peut parfois casser tout mouvement d'amour de nous à nous. Hein. Au moment où on devient conscient de ça, c'est le premier pas vers le changement. Sans cette conscience de ça, il n'y aura pas de changement. Et donc, par la répétition, en méditation, par la répétition de souhaits bienveillants à des gens et à nous-mêmes, ça devient part de la nature de l'esprit. C'est comme ça qu'ils pensent, ça change nos valeurs. Je suis sûr que même ce porte-parole du gouvernement américain, s'il pratiquait ça, ça le transformerait. Il faudrait qu'il en ait l'impulsion. Mais s'il se rendait compte finalement que ben, il n'y a pas beaucoup d'amour dans ma manière de voir et ça manque de sensibilité, il pourrait, à travers cette pratique, transformer la tournure d'esprit. C'est ce qu'on cherche, c'est transformer notre tournure d'esprit. Ce n'est pas impacter l'expérience des gens en leur souhaitant d'être heureux, du coup ils vont être heureux parce qu'ils ressentent ce que je souhaite. Ce n'est pas notre intention. C'est de nous réapprendre à être en lien et aimant avec les gens qui nous entourent. Ce qui ne veut pas dire que quand il y a un conflit, on se dit « Oh, je l'aime quand même » et tout ça. Non, 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 ça, bisounours, tout ça. C'est pas du tout ça. C'est au contraire la capacité de garder un lien humain avec quelqu'un avec qui on est en conflit. Donc si pendant cette retraite, il y a des moments pendant que vous mangez où vous ressentez de la gratitude, vous pouvez aussi avoir de la gratitude pour votre esprit qui a cette ouverture. Certains ne l'ont pas. Et si vous voulez une approche qui permet de sentir encore plus de gratitude, c'est d'avoir de la reconnaissance pour ce qui est dans l'assiette, de reconnaître que tout a participé et de mentalement peut-être réfléchir comment est-ce que ces amandes sont là et d'imaginer, de les voir sur l'arbre. De les voir cueillis, de les voir transportés, de les voir cassés, de voir la pluie, de voir comment elles poussent, comment elles étaient fleurs. Et tout, c'est ça qui est dans votre assiette. C'était la fleur qui est devenue l'amande, qui est devenue la graine de l'arbre qui a poussé. Tout ça est là et c'est ça qu'on va manger. Et ça, de le voir, de faire ce processus intellectuellement, va permettre de reconnaître la beauté et l'aspect précieux de ce qu'on a dans notre assiette. Et de là viendra de la gratitude. Merci pour votre écoute.